ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mercredi 21 juin 2023 et après l'orage qu'on a eu au petit matin dans le Beaujolais, on en attend un nouveau qui devrait arriver cette nuit. Le ciel va donc se charger de nuages tout au long de l'après-midi. Ça devrait éclater en début de soirée ou bien dans la nuit. Et en attendant, les températures, elles vont monter jusqu'à 28 degrés cet après-midi. Dans notre émission, on va parler alimentation et santé avec Charline Simian et on parlera également économie et société avec le prof Patrick. Mais d'abord, on accueille nos invités du jour, le 3CHB, Collectif Citoyen pour le Climat du Haut-Beaujolais. Alors, on n'a pas tout le collectif en studio, la formulation est un peu maladroite. On reçoit deux membres aujourd'hui, Bertrand Fimbel et Anne Mounier-Lompré. L'occasion de parler de leurs activités, de leurs objectifs et de leur fonctionnement. Et puis d'évoquer Climat Cadabra, l'événement festif autour du climat qui aura lieu le 2 juillet au Col de Cry. Avec pour sous-titre « Faites des petits pas pour le climat ». Avant ça, on écoute un peu de musique pour commencer l'émission. Voici Nathan Apollo avec « Climate Crisis Love Song », une chanson d'amour et de crise climatique. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Grass is brown, trees are dead, they're burning down. World is ending, look around. I can't breathe, but your eyes look me down. I got nothing I can say. Yeah, you took my breath away. I can't breathe.
Nathan Apollo sur Calade avec le titre Climate Crisis Love Song, chanson d'amour sur fond de crise climatique.
Ensemble sur Calade.
Allez, nos invités du jour sont donc Bertrand Fimbel et Anne Mounier-Lompré. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes membre du collectif citoyen pour le climat au Beaujolais. En quelques mots, est-ce qu'on peut présenter ce collectif, expliquer de quoi il s'agit?
Oui, il s'agit d'un collectif qui a 2 ans, qui est né, c'est nous qui l'avons créé tous les deux, et qui avait comme objectif de sensibiliser sur les questions climatiques et œuvrer aussi localement à travers des activités pour essayer de faire des choses et lutter à notre mesure contre le dérèglement climatique.
Ok. L'idée du départ, c'était qu'on habitait quand même dans un environnement privilégié. On est dans le Haut-Beaujolais. Mmh. Et en fait, on se dit, même si on est dans un environnement privilégié qui est encore vert, qui est encore luxuriant, on va dire, il s'y passe des choses liées au dérèglement climatique. Et donc, même en étant loin des villes, même en étant en milieu rural, on pouvait aussi avoir des actions qui permettaient de sensibiliser et de soutenir tout ce qui pouvait aller dans le sens de on va atténuer ce qui va se passer, en gros.
Ouais. Mais parfois, c'est en étant justement loin des villes qu'on s'en rend le plus vite compte du changement climatique, parce que quand on est dans la ville, on la voit pas forcément, la nature qui bouge, et c'est justement en allant dehors qu'on s'en rend compte,
ouais.
Je sais pas.
Ouais, c'est un peu vrai. En même temps, nous, on voit des arbres qui sont rouges maintenant parmi les forêts, alors monoculture, donc ça, c'est un autre sujet, mais...
Ouais.
On sait qu'il y a des arbres qui commencent à mourir, on sait qu'il y a des sources qui commencent à se tarir, on sait qu'il y a des pollinisations qui ne se font pas bien, et que donc, du coup, tout ça est aussi lié. On a des canicules, on a des périodes caniculaires, même en étant à 1000 mètres d'altitude. Mmh. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien.
Ouais.
Voilà. Donc, on met le doigt là-dessus.
Et vous deux, apparemment, qui avez créé cette structure, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a sensibilisé et intéressé à ces sujets-là? C'est à quel moment vous êtes dit, bon, il faut faire quelque chose?
Alors, pour ce qui me concerne, ça fait quand même assez longtemps. Moi, je suis partie vivre au fin fond du Beaujolais pour les raisons climatiques, en fait. On a décidé de vivre en habitat groupé sur 4 générations avec ma famille, en se disant qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont petits, parce que le futur est quand même plutôt flippant,
ouais,
et incertain. Et donc, nous, on a fait ce choix-là, et arrivé sur place, on avait envie d'œuvrer davantage. Je dirais qu'il y a certaines lectures, notamment Pablo Servigne, qui nous ont quand même bien poussé, mais ça faisait quand même longtemps qu'on était sensibilisés. Je fais partie de la génération pour qui c'est... Enfin, on connaît ça un peu naturellement, quoi.
Ouais, c'est une évidence.
Voilà.
Et donc, se rassembler et créer un collectif, la structure, c'est un collectif ou c'est une forme associative?
Alors, elle est devenue associative il y a 1 an.
Ouais.
Elle s'est créée sous forme collective un peu spontanément à l'occasion de la journée climat du 9 mai 2021, où on a organisé un événement au col des Écharmeaux, mais spontané.
Mmh.
Et puis on s'est structuré, on a aussi rassemblé du monde qui avait un peu le même chose, et on a créé une association au mois d'avril l'année dernière. Donc maintenant on est sous forme associative.
D'accord. Et les actions de cette association, de ce collectif, du coup, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites, justement?
On va se partager ça. il y a pas mal de choses. Ce qu'on souhaite dire au départ, c'est qu'on a créé une association qui se voulait apolitique. On est non-violent, apolitique, et on est dans un milieu où il faut y aller un peu aussi doucement par rapport à l'écologie.
C'est pas toujours accueilli?
C'est pas toujours bien entendu. Enfin, disons, ouais, que c'est un endroit où il faut choisir un peu ses mots, on va dire. Derrière, on a créé ça en se disant, bon, nos objectifs, ça va être sensibiliser, partager, favoriser toutes les actions possibles. Voilà. Mmh. Donc on est parti avec cette idée-là. On a fait un événement aussi l'été qui a suivi, où on a demandé à des gens, qu'est-ce que vous voudriez faire? Quelles sont les actions? Donc on a eu un pique-nique, on va dire,
ouais,
là aussi un peu spontané. On en a sorti une liste, et puis petit à petit, ça s'est enrichi, et maintenant on a une liste de choses qu'on pourrait faire.
Ouais.
Donc on a lancé des actions de sensibilisation, donc on utilise la fresque du climat essentiellement. On travaille on approche le maximum de conseils municipaux. On essaie de travailler au niveau des conseils municipaux. On approche aussi le grand public, on approche les écoles. On en a peut-être maintenant une quinzaine à notre actif au niveau réalisation. Ça, c'est un des axes.
D'accord.
Côté sensibilisation, information.
Et fresque du climat, qu'est-ce que c'est du coup?
Alors, fresque du climat, pour faire court, c'est un peu les travaux du... Enfin, c'est pas un peu, c'est carrément les travaux du GIEC mis sous une forme accessible et sous forme d'un jeu,
ouais,
qui se passe sur 3 heures de temps. Une partie sensibilisation, information, explication, d'où vient le dérèglement climatique, comment on le constate aujourd'hui et quelles sont les stratégies, les trajectoires potentielles si on fait quelque chose ou si on fait rien.
Ouais.
Donc ça, c'est la partie purement informative, pédagogique. Et puis, une deuxième partie de l'atelier, c'est... et maintenant ? Donc, comment chacun à son niveau et chacun avec ses sensibilités et chacun avec ses possibilités peut avoir une action, qu'elle soit individuelle, collective, politique, tout est possible. Enfin, on peut aussi continuer à s'informer sur le sujet, on peut aussi continuer à ça, on peut aller voir son maire, on peut aller voir son école, on peut en parler à ses copains, rien que ça. Le fait d'en parler à ses copains, c'est déjà une action militante quelque part. Donc voilà, ça c'est la partie fresque du climat, ça dure 3 heures. Et l'objectif, c'est effectivement de diffuser le maximum d'informations là-dessus. Mmh. Je précise que la fresque du climat, c'est une association déjà. C'est-à-dire que c'est un atelier qui est proposé par les associations dans des cadres bien, bien précis, avec des informations vérifiées, avec c'est des travaux scientifiques qui sont à l'origine de ça.
Ça se base sur les rapports du GIEC.
Voilà, tout à fait.
Qui effectivement sont des gros rapports assez indigestes.
C'est ça.
Les présenter en tant que fresque de façon pédagogique, ça peut être.
La première partie est souvent plutôt ludique et permet à tout le monde de s'exprimer sur le sujet, donc c'est plutôt sympa.
Ouais. Et j'imagine qu'il faut le faire aussi de façon joyeuse et ludique, parce que c'est pas toujours des nouvelles très agréables à entendre.
C'est nécessaire, une fois qu'on a fait cette partie de prise de conscience et d'explication, il est nécessaire de laisser un temps aux gens pour dire ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ressentent, parce que c'est souvent déprimant quand même. Ouais. Globalement, c'est pas complètement la fête. Et puis c'est un peu, globalement, il n'y a pas vraiment de solution, on va dire complètement enthousiasmante, hormis de changer de manière de voir, de changer de manière de vivre, de manière de consommer, etc. Donc c'est une grosse remise en cause. Donc on laisse un temps à l'issue de cette partie pédagogique pour laisser les gens s'exprimer sur leurs ressentis. Et puis on dit une des manières de passer la barrière soit de la peur, soit de la tristesse, soit de la colère, on peut tout voir, c'est de passer à l'action. Et quel mode d'action convient le mieux aux personnes qui sont là? Tout le monde n'a pas la même façon de jouer, mais l'action est la manière de gérer le stress, on va dire, pour faire simple.
Parmi vos autres actions, j'ai vu la mise en place d'un sel.
Oui. Alors, moi je suis référente du sel et on avait envie de mettre en place ce système d'échange local pour éviter de consommer, d'acheter. Moi je m'en suis rendu compte, j'ai eu l'occasion d'utiliser un outil, un tire-fil, il m'en fallait un de 30 mètres, j'ai dû en acheter un pour un usage unique.
Ouais.
Je me retrouve avec un tire-fil à la maison qui me sert à rien. Et en fait, le principe du sel, c'est que on peut lister en fait les affaires qu'on a, qu'on peut prêter, qu'on peut même donner. On peut lister aussi des savoirs, des choses qu'on sait faire, qu'on peut transmettre. Et on dit voilà, moi je propose ça. Et si on a besoin, on peut demander à l'aide. Est-ce que quelqu'un aurait ça? Et puis il y a forcément quelqu'un qui l'a, donc ça nous évite d'acheter, donc ça évite de consommer. Ça fait du lien aussi, ça fait des contacts. Donc on rencontre des gens qui sont un peu dans la même démarche que nous. Dans le même état d'esprit, ça fait du bien aussi.
Ouais.
Donc ça, il y a le sel qu'on a monté et on tient une permanence une fois par mois, le premier samedi matin du mois, en parallèle du café réparation qu'on a monté aussi.
Okay.
Donc à Chênelette, alors au début c'était au café chez Annette à Chênelette et maintenant on est dans la salle des assos de Chênelette, donc de 9h à midi le premier samedi de chaque mois. Et donc, il y a ce café réparation où il y a un certain nombre de réparateurs bénévoles qui viennent. Les gens amènent une cafetière, qu'est-ce qu'on a ?
Des grille-pains.
Des grille-pains.
Le fameux grille-pain.
On a beaucoup de grille-pains, ce qui est un peu une blague chez nous. Donc voilà, ils arrivent avec des appareils défectueux et nous, on regarde si on peut les parer, quel est le problème, est-ce qu'il faut, quelle pièce fait défaut, etc. Et tout ça se fait avec une participation libre, donc les gens donnent bien ce qu'ils veulent. Et l'ambiance est toujours très, très, très sympa. Et voilà, donc ça, on a démarré en septembre l'année dernière, je crois.
Oui.
Donc ça fait pas un an et ça marche plutôt bien.
Ok.
Voilà.
Donc là, je crois qu'on a parlé des
Il reste un atelier qu'on a monté il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle, qu'on appelait les Cousettes. Ouais. Donc ce sont des personnes, sont plutôt des femmes, mais qui se retrouvent avec leur machine à coudre et qui récupèrent des tissus et qui vont en faire des sacs, notamment des sacs à vrac quand on va faire des courses et qu'on veut pas utiliser de plastique. Elles font des sacs ou d'autres choses. Hein, en fait, pour l'instant, elles sont là-dessus. Donc cet atelier Cousettes aussi qui...
Avec des chutes de tissus. Et je sais que quand on fait de la couture, on aime bien se rencontrer pour partager des...
Apparemment, il y a une super ambiance dans ce groupe-là.
Ouais.
Ils font partie du café réparation où il y a une grosse activité qui est liée à la réparation de vêtements. Pour éviter de jeter.
Oui, ça, c'est pas habituel dans les cafés réparation. Nous, on a vraiment là. Il y a deux ou trois femmes qui sont là avec leur machine à coudre. Donc, pareil, ça évite de jeter des vêtements.
Sauver le jean troué.
Exactement.
Et les garder, c'est hyper important. Mm. Ça, ce serait plutôt vos actions, on va dire, régulières qui ont été mises en place. Mais vous organisez aussi des événements et des grands rendez-vous, et notamment le 2 juillet. Ça s'appelle le Climat Cadabra.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous ?
Je vais prendre 30 secondes, parce qu'en fait, les actions dont on vient de parler sont des actions qui ont été initiées sur la base d'idées que chacun a eues. On a, je disais tout à l'heure, un répertoire d'actions potentielles importants, comme travailler pour rendre des transports publics localement, ou travailler sur la forêt pour essayer de voir comment on peut aussi sensibiliser sur la monoculture ou les impacts de la monoculture. Enfin, œuvrer dans des choses qui sont connues. Hein, on n'est pas en train d'inventer l'eau tiède. Mais voilà, la difficulté qu'on a, c'est que il faut du monde. Alors, on a nos énergies et le 3CHB, si on peut essayer de retenir quelque chose, c'est que c'est une espèce de laboratoire qui permet à des gens qui voudraient s'appuyer sur une structure, sur des moyens de communication, sur une page Facebook, bientôt sur un site internet, de trouver du monde qui vont avoir la même sensibilité que sur un sujet précis qu'ils peuvent amener ou qu'ils peuvent choisir parmi ceux qu'on a déjà eu et dire bah voilà, nous on lance quelque chose, on lance un groupe d'action et on se structure pour pouvoir approcher des mairies, approcher des écoles, s'adresser au grand public, voilà. Donc, c'est important parce que c'est pas les idées qui manquent, c'est effectivement à un moment on n'a plus la capacité à faire ça proprement si on s'en tient à ce qu'on a déjà nous fait.
Donc appel aux auditeurs. Du Haut Beaujolais.
Venez nous voir le 2 juillet,
ouais.
C'est ça.
Au Climat Cadabra. Qu'est-ce que c'est exactement, de quoi il s'agit ?
Alors il s'agit d'une fête du 3CHB, donc de notre collectif. En fait, on avait envie de faire la fête,
ouais.
Parce qu'on s'entend tous très bien et donc on avait envie de se retrouver et de faire quelque chose de festif et de présenter toutes nos activités. Donc il y aura un espace pour de café réparation, donc il y aura des réparateurs, il y aura un espace de troc pour le sel, il y aura un espace avec nos couturières préférées, il y aura aussi un atelier low-tech, donc pour montrer des façons de travailler en utilisant peu ou pas d'électricité ou d'énergie fossile, etc.
Il y aura des fresques du climat quiz.
Ouais.
Aussi. Donc le format réduit, pas 3 heures, mais qui permet de se donner une idée de ce que c'est que cette fresque du climat.
Il y aura aussi un atelier porteur de parole, donc pour pouvoir s'exprimer sur le... Donc c'est pas un groupe de parole, on n'est pas là tous en cercle à dire je souffre pour le climat, mais c'est plutôt, il y aura une phrase, et puis qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous vivez vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire, voilà, quelle est votre réaction. Donc il y aura différents ateliers comme ça, avec en plus des jeux pour les enfants, des jeux en bois à grandeur, enfin plus grand que normal.
Ouais.
Il y aura tout un avec de la musique aussi, et voilà, on avait envie de faire ça sur une journée où il y aura toutes les activités, puis aussi on a invité d'autres associations ou d'autres personnes qui œuvrent aussi autour de la question climatique. Donc on se retrouvera tous au col de Cry de 10h à 17h le 2 juillet.
Très bien.
Voilà, on a appelé ça Climat Cadabra. De façon un peu ironique, on est d'accord que ça n'est pas
la baguette magique.
Ça. Mais voilà, on a envie que ce soit joyeux et voilà.
Et puis le sous-titre, c'est « Faites des petits pas pour le climat ». Et je trouve que ça donne bien l'idée de ce qu'il faudrait faire.
Y a cette ambiguïté entre « c'est la fête hein, » quand même, et puis « fête, bougez donc
». Il faut agir. Vous m'avez dit un truc qui m'a interpellé, c'est qu'il y a... On ne peut pas toujours parler d'écologie facilement avec tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu réfractaires. Et ça m'arrive moi aussi personnellement, et je pense qu'il y a des auditeurs à qui ça arrive, de vouloir parler d'écologie à des gens qui sont très réfractaires. Vous, vous l'avez vécu, comment est-ce qu'on s'y prend pour parler d'écologie à des gens qui ça n'intéresse pas
On commence par dire qu'on n'est pas écologiste.
Non, puis moi je sais que j'ai arrêté de prononcer le mot écolo,
ouais.
Parce que vraiment j'ai vu, notamment quand on avait fait notre manifestation, la marche du climat là, je voyais les visages qui se rigidifiaient, en fait, vraiment qui se raidissaient quand on prononçait le mot écologie. Donc j'ai compris que c'était pas un mot qui était bien vu, parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme en gros une pression, voilà, des privations de liberté, et finalement du coup on parle plutôt de la défense du territoire, ouais. C'est un vocabulaire qui passe mieux. Voilà, il y a apparemment c'est très très mal vu l'écologie par là-bas.
D'accord, ouais. Très bien. Bon, merci pour ces conseils. Les rendez-vous sont donnés. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on vous contacte. Vous avez évoqué une page Facebook, mais on a parlé par exemple du sel ou de l'atelier de réparation, par exemple. Comment est-ce qu'on trouve les infos, les adresses, les rendez-vous ?
Eh ben, faut chercher. Qu'est-ce qu'il faut
Alors,
chercher
Il y a effectivement la page Facebook, mais pour les
collectif
gens
collectif citoyen climat.
Oui, si on. Alors le site devrait arriver en ligne dans les semaines qui arrivent. Ouais. Il est très beau, on en est très fiers, mais il n'est pas encore en ligne. Sinon, par exemple, pour le sel, notre sel officiellement s'appelle le sel des sources.
Okay.
Donc si on marque sur Internet sel des sources ou sel au Beaujolais, on le trouve en fait, ce sel.
Et puis pour le climat, oui, je crois que c'est ça. C'est pour la page Facebook, c'est Mouvement Climat HB.
Ouais, ou Collectif Citoyen pour le Climat au Beaujolais. Ouais.
Voilà.
Et on arrive à vous trouver assez facilement.
Normalement, vous nous trouverez.
Et on a un mail quand même. Vous pouvez nous contacter sur notre mail. Donc c'est cchb@mailo.com.
Parfait, les informations sont données. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
Et puis pourquoi pas une prochaine fois pour parler d'autres activités.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on écoute Sean Nicholas Savage avec un morceau qui s'appelle Abracadabra.
Why?
Sean Nicolas Savage sur Clad avec le titre Abracadabra.
Vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Clad.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Allez, on parle d'alimentation et de santé tout de suite et on en parle avec Charline Simian. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On vient de terminer une rubrique, une série de rubriques, pardon, sur le système digestif, ce qui se passe dans notre corps quand on mange. Et on s'était dit que ce serait bien de parler de ce qui se passe avant de manger.
Et oui.
Et ce qui se passe beaucoup de choses avant qu'on mange.
Alors, il se passe beaucoup de choses, mais qui ne vont pas être de l'ordre à proprement parler de la digestion. Là, on a vraiment parlé de l'acte alimentaire. Mais en fait, il y a tout un tas de préliminaires. Si je dois continuer sur un truc un peu grivois, il faut savoir que, effectivement, manger, il y a l'acte de manger, effectivement, de mettre dans sa bouche, de mâcher et d'enquiller sur la digestion. Mais il y a aussi tout ce qui se passe en amont qu'on a tendance un petit peu au quotidien à oublier et à sous-estimer. Alors, c'est valable un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que l'odeur du poulet rôti dans le four qui, comme dans un Tex-Avery, peut venir vous chatouiller le nez et vous attirer, voir ce qui pourrait bien cuire dans le four. Donc ça fait partie du côté plaisant du pré-alimentaire. Il y a aussi ce côté chez les gens qui vont avoir soit des troubles alimentaires, soit des troubles de l'appétit, où ils vont être justement malheureusement rassasiés d'odeur. Donc avant même de manger, finalement, ils vont plus avoir envie de manger. Donc il y a vraiment cette idée de cinq sens quand on va manger. Il y a toute une anticipation, on le voit notamment chez le nourrisson, qui va s'exprimer en général quand il a faim et qui ensuite, dès qu'il va voir l'aliment, va déjà déclencher tout un système de salivation notamment. On sait qu'il y a cette salivation, on sait aussi qu'en dessous, dès qu'on commence à mâcher, on l'avait vu sur la phase masticatoire avec le fameux chewing-gum, quand on mâche, ça commence à préparer la digestion en dessous. Donc ça se déclenche en fait rien qu'au visuel finalement. Excusez-moi. Donc il y a vraiment cette idée de cinq sens, et quand on va lancer une dégustation, on va déjà commencer par aiguiser ces cinq sens. Et comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, aujourd'hui, au quotidien, va avoir une tendance à se perdre. Ouais. C'est assez rigolo parce qu'il y a des gens qui prennent des cours de dégustation, mais globalement, on peut très bien imaginer le faire un week-end quand on est au calme, en famille ou à l'apéritif, en se disant, bon, bah, en fait, ces chips qui sont sous mon nez, elles sont comment ? Quand j'ouvre le paquet, quel bruit ça fait, donc l'ouïe, qui va quand même éveiller le début, le bruit du sachet, le bruit de la chips, alors le bruit externe, mais le bruit aussi quand je vais la mâcher. Il va y avoir également le visuel, si elles sont toutes marron, un peu trop grillées, on va pas très avoir envie de les manger. La vue, ça reste quand même quelque chose qui va nous permettre de nous alerter et de nous dire ce truc-là n'est pas bon ou ce truc-là a l'air appétissant, parce qu'il y a des trucs qui ont l'air appétissants et qui ne le sont pas, et inversement. Et puis en plus, alors quand c'est pas mon cas aujourd'hui, mais quand vous avez le nez dégagé, ça vous permet d'avoir un sens en plus. D'ailleurs, on l'a noté aussi, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas, quand vous avez le nez bouché, on ressent beaucoup moins les goûts, tout simplement pas parce que je ne vais pas sentir par mon nez, mais c'est parce que il y a un phénomène quand je vais manger, qui s'appelle la rétro-olfaction, c'est-à-dire je vais mettre dans ma bouche et en fait l'odeur va remonter par l'arrière du palais. Donc ça va remonter dans le nez. C'est pour ça qu'on a diverses saveurs que l'on respire ou quand on a en bouche. Donc il y a vraiment tout ce panel de choses-là. Il y a peut-être des gens dans l'auditoire qui ne peuvent pas toucher une pêche, par exemple, pour sa peau toute douce et toute mignonne. et que ça va vraiment déranger. Moi, personnellement, c'est la viande crue. J'ai vraiment du mal à la toucher parce que ça a une texture, quelque chose qui me dérange. Donc, véritablement, il y a tout ce panel-là qui aiguise un petit peu le reste de la prise alimentaire, finalement.
Et sur ces points-là, j'imagine qu'on est tous assez différents.
Tout à fait, bien sûr, et c'est ce qui fait notre richesse. Mais du coup, vraiment, il y a tout ce panel-là, et pour peu qu'on fasse un petit peu attention à tout ça, on peut aussi développer, je pensais en préparant la chronique notamment, on l'a tous vu dans une fameuse épreuve d'une émission de survie sur TF1 où les personnes gagnent un repas.
Ouais.
Ils ont tellement mangé des yeux et des racines avant qu'on a l'impression qu'ils n'ont jamais mangé les mets qu'on leur propose, qui sont au demeurant assez simples en général. Vous êtes en train de manger votre poulet devant en disant « ouais, enfin c'est du poulet, ça va ». Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas eu cette saveur en bouche que ça explose et ils le verbalisent vraiment, c'est-à-dire qu'ils se rendent vraiment compte que ça a une saveur incroyable parce qu'ils en ont manqué finalement.
Ouais. Et donc prendre soin aussi de l'apparence de ce qu'on mange, ça peut être une façon d'avoir une alimentation équilibrée plus facilement aussi. Si on a des beaux légumes dans l'assiette plutôt que des trucs tout rachitiques, c'est peut-être plus facile de les manger.
Tout à fait. Il y a toute cette notion, effectivement, de présentation, parce que bah, finalement, se faire plaisir, ça passe aussi par les yeux et pas forcément par la bouche. Et on le voit avec les enfants, notamment. Si vous leur prévoyez des légumes en forme de légumes, ils risquent d'avoir quelques appréhensions. Si vous les cachez dans les pâtes, ils auront moins d'appréhensions. Mais il y a vraiment cette notion, effectivement, vous avez raison, de « je vais c'est pour ça que dans les grands restaurants, par exemple, on présente les choses.
Ouais.
Parce que ça donne encore plus envie, ça vous met dans de meilleures conditions de dégustation ensuite.
Bon. Et ben ça m'a donné faim cette chronique. Merci beaucoup, Charline.
Eh bien, j'espère que vous aurez le temps de manger incessamment sous peu, Mathieu.
À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
On écoute Féloche. Bon appétit, chaman. Sur Calade avec le titre Bon appétit, chaman.
Sur économie, que c'est la richesse de la commune. Aimer, c'est la mort.
Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Et effectivement, on retrouve tout de suite le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Prof Patrick qui n'est pas tout seul.
Eh non, parce que c'est la 100e aujourd'hui, Mathieu.
Ouh, j'espère qu'à la maison, vous êtes avec le gâteau d'anniversaire.
Voilà, 100e chronique, prof Patrick. Commencé en mai 2020, hein, Mathieu, belle aventure. Ouais. Et pour cette 100e, j'ai invité pour faire un crossover Geneviève de la chronique Histoire de femme, femme d'histoire. Bonjour Geneviève.
Bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors on va vous expliquer pourquoi, hein. Parce qu'on va parler de sujets qui vont encore plomber l'atmosphère, comme d'habitude, tu me connais bien, hein. Parce qu'on va parler des perturbateurs endocriniens.
Aïe, aïe, aïe.
Qu'est-ce que
c'est
que
ce truc ? C'est une substance chimique qui interfère avec le système endocrinien. Mais c'est quoi le système endocrinien ? Bah, faut tout vous dire. Bon, allez, je vous explique. C'est un ensemble de glandes et d'organes qui sécrètent des hormones dans l'organisme. Voilà, tout simplement. Sauf que ces produits-là, les produits substances chimiques, viennent perturber ça. Mais selon un mécanisme qu'il faut comprendre, qu'on appelle le mécanisme clé-serrure. Ça veut dire que le perturbateur, exemple un plastifiant, tiens, du bisphénol, va va tout de suite avoir un effet sur le système endocrinien. Et ça, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'en fait, ça va à l'encontre de la règle habituelle de la toxicologie, qui consiste à dire « Oh, à faible dose, c'est pas grave, il faut des fortes doses pour qu'il y ait un poison. » Pas du tout. Avec les perturbateurs endocriniens, dès qu'une substance agit sur le système endocrinien, tout de suite, c'est toxique. Okay. D'accord ? Donc, on est sur quelque chose de très problématique. C'est ce problème-là, ces perturbateurs endocriniens, ça a été découvert, devine quoi, notamment par deux femmes scientifiques. Et c'est pour ça qu'on est ensemble, ma chère Geneviève, parce qu'on va parler de ces deux femmes. La semaine prochaine, on parlera d'une femme qui s'appelle Théo Colborne. Elle a un nom de garçon, c'est pour vous embêter. Mais cette semaine, on parle d'une première femme qui s'appelle Rachel Carson, qui a été vraiment hyper importante dans la découverte des perturbateurs endocriniens. Et c'est Geneviève qui s'y colle. Tu as la parole.
Ah, merci beaucoup, Patrick. Déjà, un grand merci donc, pour m'avoir fait découvrir cette personnalité incroyable. Et je ne sais pas vous, mais moi, Rachel Carson, ça ne me disait rien du tout jusqu'à ce que tu prononces ce nom devant moi.
Mais avant que je tombe dessus, non plus.
Voilà. Et c'est dingue parce qu'en fait, outre-Atlantique, elle est ultra connue, en fait, Rachel Carson. C'est une vraie personnalité inspirante. Et beaucoup estiment d'ailleurs que son livre, Silent Spring, donc on va reparler dans la chronique, a été vraiment la base de toute l'écologie, au sens où nous, on l'entend aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc c'est pas rien. Donc, à votre avis, en quelle année est-ce qu'elle a commencé à dire la vérité sur les pesticides ? Qu'est-ce que tu dis, Mathieu ?
Ah, Mathieu, quelle année ?
Oula, je sais pas, ça doit pas être si vieux que ça non plus.
Non, pas très vieux, t'inquiète pas.
Allez, vas-y, dis une date.
Je sais pas, il y a une cinquantaine d'années.
Une cinquantaine d'années, c'est pas mal. Allez, on te met une bonne note.
Yes.
1962.
62, voilà.
Ouais. Okay. Depuis 1962, on sait que les pesticides sont une vraie saleté pour la nature, et dans la nature au sens large, les oiseaux, les animaux, les arbres, et aussi nous, les hommes.
Mais on a agi depuis pour... Ah non, c'est vrai, on n'a pas...
Tu vas voir,
hélas,
justement,
hélas.
Cette histoire, déjà, qui
voilà.
commence là.
Eh bien, écoutez, donc, qui est cette fameuse Rachel Carson ? Eh bien, une avant-gardiste, ça vous l'aviez bien compris. Et si je brosse... Si je brosse son portrait rapidement, on pourrait juste rappeler, donc, elle est née en 1907, à Pittsburgh. Donc cette petite Américaine est d'une nature très curieuse. Elle passe sa vie dehors sous le regard bienveillant de sa mère qui est persuadée que pour éduquer correctement un enfant, et bien surtout, il faut le laisser dehors. Connaître la nature, connaître les arbres, connaître les animaux et être sensible à cette cause, n'est-ce pas ? Ouais. Je crois que d'ailleurs, c'est une philosophie qui a encore de grands jours devant elle.
Ouais.
Voilà, et donc, elle est grande lectrice, elle est douée pour l'écriture et elle publie, tenez-vous bien, sa première nouvelle à l'âge de 10 ans. Une nouvelle.
Précoce, la jeune fille.
Précoce, la jeune fille, ouais. À 10 ans, elle s'intéresse déjà aux animaux. Étudiante, au tournant des années 30, donc, elle étudie la biologie. Elle est brillante et elle se spécialise ensuite en zoologie et en génétique. Donc, on note déjà quand même qu'elle aime bien ce côté touche à tout, qui fait toute la caractéristique de ce personnage. Néanmoins, eh bien, ses études se passent bien, mais elle doit quand même nourrir sa mère et sa sœur et ses nièces, et donc par conséquent elle ne peut pas aller aussi loin que ce qu'elle souhaiterait. Donc très rapidement elle doit assurer le soutien financier de ses proches, et elle travaille. Elle travaille en écrivant, en rédigeant et en rencontrant surtout de premiers succès au box-office.
Littéraire, hein.
Ouais, complètement. Alors littéraire et scientifique, hein, ça aussi ça tord un peu le coup, cette idée qu'un cerveau est soit scientifique, soit littéraire. Il faut choisir.
Ouais.
Elle fait les deux. Et elle a écrit un premier livre qui a rencontré un grand succès, qui s'appelle La mère qui nous entoure. Mère, M-E-R, hein, évidemment, vous l'auriez compris. Qui reste quand même 86 semaines au box-office du New York Times. Excusez du peu. Voilà. Donc, on pourrait se dire que pour cette charmante jeune femme, eh ben, tout va pour le mieux. Eh bien, pas tant que ça, puisqu'en fait... dans ce contexte un petit peu particulier de, ben on s'approche hein, de la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait, les Américains mènent une autre guerre impressionnante contre les insectes.
Aha, ouais, surprise, ça, on ne pensait pas à ça.
On ne pensait pas à ça, hein, on est d'accord.
Ouais.
Et ça va donner lieu d'ailleurs à des vraies caricatures intéressantes sur l'assimilation des ennemis.
Ouais.
Voilà,
d'accord.
Qui sont traités comme des insectes. Et dans l'esprit des gens, du coup, cette assimilation, eh bien, elle va faire le lit de cette idée que si on veut nourrir correctement toute la population, il faut nourrir en grande quantité, donc produire beaucoup.
Et détruire les insectes qui nous barrent la route.
Mais ouais, complètement. Il y en a marre, les insectes.
D'accord.
Hein, ces empêcheurs de tourner en rond.
C'est un peu ça la philosophie de l'époque, ouais.
Exact. Et donc, Rachel Carson, elle va être assez sensible tout de suite aux conséquences de cette épandémie épandage massif. Mm-hmm. Elle va d'ailleurs, donc dans son livre « La mer qui nous entoure », comparer cette aspersion mm-hmm. de pesticides mm-hmm. à une espèce de neige artificielle qui tombe et qui recouvre tout et qui attaque mm-hmm. la nature. Mm-hmm. Je redis.
Qui attaque silencieusement sans qu'on s'en rende compte.
Exactement. Ouais, Silent ouais. Spring. Exactement. Mmh, mmh. Ah, tu me fais une intro parfaite, Patrick. Ouais. Il est au top, ce Patrick. Et alors, c'est là où les choses deviennent subtiles et où j'ai besoin de toute votre attention, chers auditeurs.
Mathieu, écoute.
Ouais, c'est bon, j'ai tout le monde.
Mais Mathieu, il faut que tu sois concentré.
Parce qu'en fait, ce serait facile de dire, comme tous les détracteurs d'ailleurs de Rachel Carson, oui, non mais attendez, cette bonne femme là, d'abord elle est un peu hystérique parce que c'est une femme. Donc, hein, voilà. De quoi elle se mêle? Elle a qu'à continuer à écrire et puis pourquoi elle se mêle de science là comme ça, de médecine? Qu'elle reste donc à ses fourneaux. Et puis de toute manière, elle veut qu'on retourne au Moyen-Âge. Hein, mm-hmm. C'est bien ça le propos. Mm-hmm. Sauf qu'en
déjà
fait.
Déjà à l'époque, on y
est. Mais bah, déjà à l'époque.
C'est du solide. Hein. Aïe. Monsieur Macron nous l'a ressorti il n'y a encore pas si longtemps que ça.
Mm. Okay. Ouais. C'est rassurant, non?
Oui, oui, tout à fait.
On vous l'avait dit en intro, hein, les auditeurs, on est d'accord. Aujourd'hui, c'est l'émission qui rassure.
Voilà.
Bref, donc, cette jeune femme, eh bien, on pourrait penser que c'est une espèce d'hystérique qui ne sait pas se tenir. Eh bien, pas du tout, en fait, parce qu'elle n'a pas un discours agressif envers l'utilisation de ces pesticides. Au contraire, elle dit plutôt qu'il faut en avoir un usage raisonné. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle ne ferme pas la porte, mais on ne balance pas tout ça sur tout et n'importe quoi sans estimer les conséquences.
Elle a un discours scientifique quand même, un discours scientifique fondamentalement.
Priori, fondamentalement.
Plus que militant en fait. Ouais. Mmh.
Et ça va être d'ailleurs tout le propos de son livre Silent Spring, donc qui se nourrit. Alors le livre sort en 1962, donc là on a fait un sacré bond dans le temps.
En français, Printemps silencieux. Ouais. Alors, on va traduire quand même pour les anglophones.
Alors, Printemps silencieux, et alors à votre avis, pourquoi Printemps silencieux? Qu'est-ce qui fait que au printemps, on...
Bah, une fois qu'on a tué tous les insectes, en même temps, il y a beaucoup moins de bruit dans la campagne. Hein.
Bah
c'est
oui,
sûr.
Les insectes et les oiseaux.
Et les oiseaux qui n'ont plus d'insectes à manger, qui meurent.
Et qui meurent, voilà.
Oui, ouais. Bah oui.
Et donc, en fait, Rachel Carson avait estimé qu'il y avait à peu près la moitié des oiseaux qui avaient disparu. Mm-hmm. Donc, cette population était divisée par deux entre les années 40 et les années 60.
Oui, donc 20 ans, hein, c'est vraiment hyper court comme période.
Ah, c'est une génération. Voilà, ouais. C'est une génération. Et donc, ça va être le titre de son livre. Et donc, pendant 20 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle compile des connaissances extrêmement précises, des connaissances médicales, des connaissances en zoologie, des connaissances en génétique.
Voilà. Elle fait un travail de fond scientifique gigantesque.
Gigantesque, voilà, exactement. C'est une grande bosseuse. Et donc, dans toutes ses compilations, elle utilise systématiquement une démarche rationnelle. Donc on n'est pas du tout dans l'hystérie et dans le militantisme, au contraire, hein, c'est des chiffres. Mmh. Et très rapidement, elle va s'opposer à la politique extrêmement agressive des industries. En tête, j'ai nommé Dupont, hein, qu'on va retrouver sur d'autres affaires du même type, qui propose du coup beaucoup d'argent aux médecins qui seront d'accord pour venir étayer leur thèse.
Voilà. Enfin, pratique qui sera largement développée chez les industriels, aller stipendier des scientifiques pour mener des recherches dont la conclusion est déjà établie à l'avance.
C'est ça. Alors là, la méthode scientifique, on la cherche encore. Hein. Ouais. Voilà, l'argent, toujours l'argent. Et donc elle s'oppose à ça de façon nette, de façon scientifique. Mm-hmm. Elle oppose des chiffres. Et dans son livre, Silent Spring, elle va vraiment poser elle ne souhaite pas asséner une réponse toute faite. Bien au contraire, elle laisse le lecteur libre de sa conclusion et de l'attitude qu'il doit avoir par rapport donc au respect de cette écologie, au respect de cet équilibre fragile entre nature et homme. Mmh. Voilà, alors ce livre sort en 62, donc ça peut sembler assez tardif. Alors j'ai expliqué que c'est parce qu'elle avait amassé pas mal de connaissances et puis elle-même doit faire face à des graves problèmes de santé, puisqu'on va lui révéler qu'elle a des problèmes de kystes, des problèmes de kystes qui vont se transformer en problèmes de cancer et puis des métastases qui vont malheureusement se généraliser. Et donc, lorsque le livre commence à être en presse, elle est gravement malade, elle meurt en 64. Après avoir
deux ans après la sortie de son livre.
Exactement, deux ans après, c'est très court. Et en fait, ça va être un vrai livre testament.
Ouais.
voilà, qui aux États-Unis, je l'ai dit, donc a fondé vraiment tout le mouvement de l'écologie qu'on connaît aujourd'hui.
Retentissement gigantesque de ce livre, attention, hein, sur tous les plans médiatiques et politiques.
Et politiques, complètement. Mmh. Et c'est là où ses détracteurs s'en sont donnés à cœur joie, puisque du coup, il transforme ses écrits en écrits militants. Voilà, c'est un peu l'idée clé que je souhaiterais que vous ayez bien en tête. Mmh. Ce qu'elle n'est pas. Ce qui est profondément peu respectueux de sa personnalité et surtout de ce qu'elle a apporté. Et c'est là-dessus que je conclue. On est d'accord que cette femme, elle a quelque part changé le monde. Donc en cela, c'est une vraie chronique de femme d'histoire. Elle est très peu connue. Pourtant, elle a été l'une des premières à parler donc, de ces fameux DDT.
Voilà.
Je te laisse la parole, Patrick.
Qui, grâce à elle, sera interdit au début des années 70. D'autres pesticides seront interdits. C'est le résultat direct de son travail. Il a fallu 10 ans pour que le politique réussisse à vaincre les résistances. Mais c'est vraiment elle qui a provoqué ça par son livre. Les changements réglementaires massifs sont issus de son travail.
Complètement.
Aux États-Unis.
Et quelque part, même si ces insecticides, ces pesticides sont interdits pour certains, d'autres le sont encore.
Ouais, l'affaire n'est pas terminée, vous
l'affaire
en doutez
bien. Voilà, et très clairement, on paye encore l'addition de ces polluants éternels. Hein. Et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas.
Mais le combat continue et donc nous verrons la semaine prochaine une deuxième chercheuse qui, elle aussi, a travaillé là-dessus quelques décennies après. Nous en avons terminé, Mathieu, n'est-ce pas, Geneviève ?
Complètement.
Merci beaucoup à tous les deux.
Bon après-midi
à
vous.
À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle sera retrouvée sur radio-calade.fr en réécoute. Rediffusion demain matin à 10h. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.